Quel est l'état de santé des entreprises d'Occitanie?
Les entreprises en Occitanie, bilan 2024 et perspectives 2025, c'est le panorama dressé à partir des données de 2277 entreprises consultées par la Banque de France Occitanie. Sa directrice régionale est l'invitée de Radio Présence. Bonjour Christine Bardinet.
Bonjour Isabelle, merci de me recevoir.
Avec joie. La bonne nouvelle concerne l'inflation. Ça y est, elle est passée sous la barre des 2% fin 2024 et ça se confirme. Quelles en sont les conséquences?
Alors effectivement, nous avons globalement vaincu l'inflation qui en France est bien en dessous de 2%. Les conséquences, eh bien écoutez, c'est la cinquième fois que la BCE baisse ses taux. C'est une bonne nouvelle pour l'économie puisque les taux courts commencent à baisser drastiquement. Et on commence à le voir dans les taux de crédit, notamment aux ménages et un peu à l'investissement des entreprises.
Est-ce qu'on le mesure aussi pour le crédit immobilier ?
Alors, tout à fait, vous avez raison Isabelle, on le mesure sur le crédit immobilier puisque les taux ont bien baissé depuis maintenant 6 mois et on retrouve une reprise du crédit immobilier douce, mais on a atteint bien le pic bas du crédit immobilier et on voit que ça revient petit à petit.
Oui, voilà, ça c'est quand même une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a aussi une conséquence de cette inflation qui passe sous la barre des 2% sur l'emploi ?
Alors, sur l'emploi, c'est plus difficile à quantifier. Déjà, c'est plus indirect. Malheureusement, 2025, ce que nous disent les entreprises, ce que nous voyons, c'est plutôt une reprise sans impact sur l'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les entreprises cherchent à augmenter la productivité du travail qui avait bien baissé ces dernières années.
Oui. Alors, pas de grande surprise par rapport au bilan de l'année dernière. L'aéronautique est encore la locomotive des entreprises d'Occitanie. Le chiffre d'affaires de ce secteur a augmenté de 6,3% pour l'industrie et de 4,3% pour les services. À quelles entreprises cette hausse bénéficie-t-elle précisément ?
Dans l'aéronautique et dans les autres entreprises. Mmh. Alors, on a bien sûr en Occitanie un gros moteur, on va dire un réacteur qui est autour de l'aéronautique et de sa filière, même si elle peut, à certains égards, créer des petits goulots d'étranglement. On a aussi dans les services qui ont très bien fonctionné l'ingénierie liée à l'industrie, mais aussi l'ingénierie des services liée à la digitalisation, la facture électronique et puis le tourisme, donc l'hébergement, ouais, qui s'est plutôt bien tenu en Occitanie en termes de volume. En revanche, en termes de valeur, par exemple, le panier moyen a un tout petit peu diminué. Ça, c'est un effet JO aussi qui est assez notoire. C'est-à-dire qu'on est parti en vacances, mais on a regardé le JO à la télé.
Oui, ça, c'est vrai. Et oui, il ne fallait rien rater. Alors, ce bilan financier, il est quand même lié à la progression des effectifs. L'industrie aéronautique est davantage concernée que les services. Pour quelles raisons, Christine Bardinet?
Alors, vous savez qu'on a eu une tension sur l'emploi en 2022-2023 et qu'on a continué à en recruter en 2024, en tous les cas au premier semestre, assez massivement, parce qu'on avait besoin de talents. Donc on l'a vu, hein, le taux de chômage a d'ailleurs baissé. En revanche, à partir du S2, donc vous comprendrez les effets de l'environnement politique, là on a commencé à arrêter de recruter dans l'aéronautique un peu. Beaucoup les sous-traitants ont recruté. En revanche, on a vu l'intérim chuter. Sur les services, plutôt une augmentation aussi de l'emploi en 2024 pour des nouveaux talents liés à la cybersécurité, pour monter en puissance sur ces sujets-là.
Et c'est vrai que l'entreprise ATR a quand même spécifié qu'elle avait une hausse de ses commandes de 40%, mais une stagnation de ses livraisons en raison des difficultés de la chaîne d'approvisionnement.
Oui, on a toujours des sujets globaux sur la filière aéronautique qui globalement va bien. C'est notre moteur en Occitanie. On rappelle que 2/3 des avions livrés au monde sont des avions Airbus et c'est 2/3 de la balance commerciale. Donc ça va bien. Il y a des petites rugosités et avec l'ensemble de la filière et la Banque de France et les partenaires institutionnels, on regarde ce sujet pour délivrer un petit peu ces rugosités.
Et oui, c'est ça. Alors évidemment, sans surprise aussi, un secteur toujours en difficulté, c'est le BTP qui présente une faible augmentation de 0,5% de son chiffre d'affaires. Quelles sont les perspectives pour 2025?
Alors sur le BTP, je préciserai seulement Isabelle qu'il y a d'abord le bâtiment et les travaux
publics. Oui, il faut bien distinguer les deux.
Les travaux publics en 2024 en Occitanie se sont bien portés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été lancés par des grands chantiers. Vous en parliez précédemment aux infos, la 69, le métro et le début de la LGV. 2025 s'annonce beaucoup moins positif pour les TPE. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas de budget des collectivités locales et puis un budget qui est globalement, malgré tout, un petit peu en réduction sur les collectivités locales. Sur le bâtiment, deux jambes également, une jambe de gros œuf qui, elle, ne va pas bien, effectivement, donc elle est en récession, et une jambe de second œuf qui est majoritairement représentative dans notre échantillon, qui, elle, se porte beaucoup mieux. Les perspectives, c'est vraiment ce qu'on appelle stable, c'est à zéro. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de visibilité grande. On a encore un petit peu de carnet de commandes dans le second œuf, notamment, mais dans le gros œuf, ça reste très, très, très récessif.
Autre nouvelle inquiétante, hein, c'est vrai que ce début d'année est difficile pour les entreprises. C'est le nombre de leurs défaillances. La Chambre de commerce et d'industrie d'Occitanie constate une hausse de 40%. Pour notre région, les Hautes-Pyrénées et l'Aveyron accusent une très forte augmentation du nombre d'ouvertures de redressement et de liquidations judiciaires supérieures à 70%. Et puis, de l'autre côté, les autres départements sont à la peine avec une hausse entre 30 et 50%. Il n'y a que le Tarn qui contient la hausse sous la barre des 30%. Pourquoi une telle disparité, Christine Bardinet ?
Alors, je voudrais juste revenir sur ce taux de défaillance, parce que vous avez annoncé des chiffres, des nombres à deux chiffres.
Et
bon,
oui.
Il faut raison garder. Sur l'année 2024, je crois qu'on est à 18% au total de défaillance d'entreprise. Donc, c'est vrai que ça augmente encore, mais il y a une décélération. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est comme l'inflation. C'est-à-dire qu'il y en a encore, mais ça décélère. La deuxième chose qu'il faut mettre en regard, c'est le nombre de créations d'entreprises. Et le nombre de créations d'entreprises reste particulièrement dynamique en Occitanie, en Haute-Garonne aussi, et dans les autres secteurs. Donc, pour vous donner un exemple, on a à peu près 1 million d'entreprises créées en France, et c'est un peu plus de 100 000 en Occitanie. Quand vous avez 18 000 défaillances sur 100 000, ça reste ce qu'on appelle un taux un peu de prévalence qui reste sur une moyenne de longue période. En revanche, vous avez des disparités en fonction des secteurs, souvent des départements, avec quelques emblèmes qui peuvent tomber. Alors, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de défaillances de toutes petites entreprises, qui ont été celles qui ont été créées pendant le Covid, typiquement, et qui ont un modèle d'affaires qui ne résiste pas à la normalisation de l'économie. Mmh. On a par ailleurs fait des études, que ce soit la Banque de France ou la Direction générale des entreprises, sur les caractéristiques des entreprises qui faisaient défaillance. Assez sans surprise, c'est des entreprises qui avaient moins de productivité et des difficultés qui précédaient la période Covid pour les plus grosses.
Donc, elles ont été un peu sous perfusion avec les prêts garantis par l'État et...
Alors, pas forcément les prêts garantis par l'État, mais l'ensemble des mesures exceptionnelles qui ont été mises en place au moment du Covid ont vraisemblablement retenu une tombée. Malgré tout, vous avez raison de dire qu'il y a un signal d'alerte. Ce signal d'alerte est plutôt sur la taille des entreprises qui aujourd'hui commencent à faire défaut, puisqu'on voit un peu plus de TI, donc un impact sur l'emploi qui pourrait être supérieur.
Mmh. Donc finalement, ces défaillances d'entreprises, elles concernent les plus petites entreprises.
Alors à 90%,
c'est ça. Ouais,
92, je crois exactement même, d'ailleurs.
On va essayer d'élargir un petit peu notre propos. La Cour des comptes vient de tirer la sonnette d'alarme à peine le budget adopté. Dans un rapport publié le 13 février, elle estime que le dérapage du déficit public depuis 2 ans place la France au pied du mur. Comment ce déficit des 3% pourra-t-il être tenu ?
Alors, vous avez raison de dire que la France est dans ce qui s'appelle une procédure de déficit excessif vis-à-vis de la Commission européenne. C'est-à-dire que on a globalement dépassé massivement les 3% qui sont la norme européenne. Alors ça donne... Pourquoi c'est au pied du mur ? Pas parce que tout simplement, il faut payer les intérêts de cette dette, que les intérêts de cette dette, finalement, ils sont plus forts que pendant la période Covid en raison de l'augmentation des taux. Alors, ça va un tout petit peu mieux. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement ? Vous avez des échéances de prêts qui se terminent actuellement avec des taux à zéro. Vous réempruntez aujourd'hui avec des taux qui sont supérieurs à 0,80 points de base avec l'Allemagne, c'est-à-dire autour de 3,20. Assez mathématiquement, votre dette vous coûte plus cher. Mmh. Et demain, le pied du mur, c'est-à-dire que ce sera le premier budget de l'État hors retraite. Donc demain, on portera dans notre charge, finalement, le premier budget sera la charge de la dette devant l'éducation nationale. C'est ça, le pied du mur. C'est quel finalement perspective on donne à notre pays si le premier budget c'est le remboursement de la dette au détriment de l'école, etc. Mmh. C'est ça ce que ça veut dire.
Oui, le directeur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, est plutôt positif. Il croit à l'esprit des Jeux Olympiques et à celui de Notre-Dame. Il croit que voilà, ce déficit peut se contenir.
Alors, vous avez raison, le gouverneur dit souvent qu'il a quatre messages en 2025, une baisse des taux, une année sans récession, hein, c'est ce que nous venons de montrer précédemment, mmh. et une capacité à créer de la croissance sans austérité. C'est ça, sa capacité à faire. Pourquoi ? Parce que quand on nous compare avec les pays européens voisins, et le premier étant l'Allemagne, un modèle économique à peu près similaire, nous avons, nous, en France, un modèle qui coûte à peu près 9,5 points de PIB supplémentaires. À peu près 260 milliards de plus. Donc, c'est possible de le faire. Simplement, c'est des choix qui ne nous appartiennent pas. Nous, en tant que banque centrale, nous sommes plutôt un phare ou un éclaireur. Mais ce qu'on dit, c'est qu'économiquement, c'est possible.
Mmh. Les entreprises que vous avez consultées, ces 2277, sont-elles inquiètes de devoir assurer le redressement budgétaire de la France ? Comment elles se positionnent ?
Alors, vous avez raison, Isabelle, de dire que nous avons passé depuis septembre 2024 un vrai sentiment d'incertitude, de flou, d'insécurité fiscale notamment. D'ailleurs, que ce soit pour les entreprises ou les particuliers, dont on voit que le pouvoir d'achat est allé assez massivement dans l'épargne. Donc oui, il y a une vraie incertitude encore des entreprises de savoir comment elles vont être traitées en termes fiscaux notamment, et la conséquence peut-être une frilosité sur l'investissement et l'emploi.
Dernière question, si on élargit encore notre regard au niveau mondial, quelle réponse apporter aux menaces de la hausse des taxes douanières avancées par le président américain Donald Trump ? Parce que là aussi, ça a un impact sur les entreprises de notre région.
Alors, vous avez raison. Aujourd'hui, il est encore assez difficile de l'estimer eu égard au côté erratique des propositions du président élu Donald Trump. Alors, première nouvelle, c'est que la France est assez peu exposée malgré tout aux États-Unis. Donc il y a une petite partie, bien entendu, si vous regardez l'aéronautique, bien entendu, mais globalement, ce n'est pas notre premier partenaire. Deuxièmement, en dehors de l'énergie que nous importons des États-Unis, il est vrai que nous sommes globalement excédentaires vis-à-vis des États-Unis. Mais aujourd'hui, eu égard à la guerre en Ukraine et en Russie, on importe notamment du gaz et du GNL. Donc, on est quand même plutôt déficitaire vis-à-vis des États-Unis. Donc, la réponse, elle n'est pas que française, elle est européenne. Hein, c'est ce qu'on appelle la capacité des Européens à répondre. Est-ce qu'on aura une réciprocité ? Donc, on va augmenter aussi nos droits de douane sur certains produits. À qui on va faire payer ces droits de douane ? Donc, aujourd'hui, il est encore un peu tôt pour se prononcer. Ce qu'on sait, c'est que des mesures tarifaires, elles sont avant tout inflationnistes pour le pays qui les décide. Donc, ça a un impact de dire qu'il y aura plus d'inflation vraisemblablement aux États-Unis. Ça veut dire plus d'augmentation des taux aux États-Unis. In fine, ça peut être un coût supplémentaire sur notre dette à nous, puisque vous savez que l'argent, les flux financiers n'ont pas beaucoup de frontières. Donc c'est cette partie-là qu'on est en train de regarder, c'est quel impact sur les taux d'intérêt à long terme, avec un dollar qui vraisemblablement pourra se relever. Et donc on va parler à nouveau d'une politique qu'on n'entendait plus parler du tout, ce sont les taux de change.
Ah.
Voilà, donc c'est les premiers impacts, c'est comment les banques centrales vont à nouveau appréhender une politique de taux de change. Aujourd'hui, on avait des taux de change relativement stables, en dehors des coûts de crise qui nous étaient venus, soit du Covid, soit de la crise financière. On n'entendait plus beaucoup parler depuis la crise financière. Donc ça va être les enjeux, effectivement. Et puis de regarder in fine ce qui se fait. Vous avez vu que M. Trump est ce qu'on appelle un transactionnel. Donc il le fait en fait de manière bilatérale. Je crois qu'un des gros sujets, c'est vraiment ce qu'on a appelé le réveil de l'Europe. C'est savoir comment à 27, on arrive à réagir vis-à-vis de politiques qui sont moins douces, moins souples que ce qu'on a pu connaître.
Oui, voilà, donc effectivement, une réaction de l'Europe à suivre attentivement. Merci beaucoup Christine Bardinet.
Je vous remercie Isabelle.